À l'occasion de la libération des ondes, il y a 40 ans, le livre que nous avons édité sur l'histoire des radios locales charentaises, Charente FM, est toujours disponible au prix de 20 euros. Témoignages, anecdotes, passions, revivez l'aventure de ces pionniers de la bande FM charentaise. Commandez dès aujourd'hui Charente FM au 05 45 95 54 95 ou à l'adresse mail rcfcharente@rcf.fr.
RCF Charente, en Charente Limousine, sur 104.1.
Radio Raconte-moi ton histoire, c'est donc la série qui est proposée par le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux sur RCF Charente pour fêter ses 40 ans des radios. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 de La musique à la parole.
C'était un beau jeune homme et j'étais demoiselle, bien que j'ai eu déjà par hasard mes jumelles.
Moi, mes projets, c'est en fait d'attendre qu'on me donne l'autorisation de remonter sur scène.
Bonjour, c'est Maïté sur Fréquence Grand Lac.
Bah Johnny, là aussi, on s'était rencontrés bien avant La Rochelle.
Oui, je me sens cuisinière encore, landaise toujours. Ça, je pense que ça sortira jamais de mes tripes.
J'ai pleinement confiance aussi dans l'avenir de notre ville. Bordeaux la belle, je te souhaite bon vent.
Vive la radio!
Radio, raconte-moi ton histoire. Une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Aujourd'hui, de la musique à la parole.
1981, la radio se libère du carcan où l'enfermait depuis des décennies le monopole d'État. C'est une radio multiple, joyeuse, festive, expérimentale, parfois provocatrice, mais surtout très musicale. La musique est partout, sur toutes les fréquences. Il y en a pour tous les goûts, surtout pour les auditeurs les plus jeunes. Et tout cela s'explique aisément.
Alors la bande FM, pourquoi elle est musicale à l'époque ? Elle est surtout musicale pour deux raisons.
Jean-François Brieux, journaliste universitaire, historien de la chanson.
La première, c'est que souvent, toutes ces radios-là, tous ces gens, ils se disaient, mais comment on va faire pour être choisi contre les autres ? Et donc, pour être sûr qu'ils se repéraient avec leur petit matériel un peu de deuxième zone qui grimpait sur les toits comme ils pouvaient, ils se réservaient des fréquences et ils envoyaient de la musique toute la journée pour pouvoir dire plus tard en montant leur dossier, oui, mais on est déjà en train de diffuser nous. Ils ne faisaient pas vraiment d'émission, ils n'avaient même pas de studio, mais ils balançaient déjà de la musique. Et puis je crois que la deuxième raison, c'est qu'en cette époque où tous ces gens n'avaient aucun matériel, il faut bien le dire. En revanche, ils avaient des disques. Et ils avaient une platine. Et ils avaient grosso modo la possibilité de raccrocher la platine à une table de mixage. Et donc, c'était quand même le plus simple. Ça, ce sont les raisons matérielles. Après, il y en a d'autres. Alors, je crois qu'il y a des raisons culturelles. Et notamment à Bordeaux, il y avait une activité musicale assez importante et assez spécifique. D'abord, il y avait un festival qui s'appelait Sigma, et dans lequel il y avait des programmations musicales assez importantes, assez spectaculaires, puisqu'on voyait défiler aussi bien de Pink Floyd à Magma, en passant par Miles Davis et Sun Ra et les autres. Il y avait de la chanson, plutôt de la chanson qu'on va qualifier entre guillemets de gauche, underground, mais il y avait déjà du Brigitte Fontaine, il y avait du Catherine Ribeiro, il y avait Colette Mani, il y avait des gens comme ça qui passaient dans le cadre de Sigma. Il y avait un cabaret à Bordeaux qui s'appelait Les Chansons, qui faisait venir pas mal de musiciens. Il y a eu dans les années 79-80 une montée en puissance d'un rock bordelais important quand même. Et voilà, il y avait aussi, pas très loin d'ici à Mont-de-Marsan, il y avait eu le festival punk qui avait inscrit Bordeaux dans la ligne de la New Wave et des nouveaux groupes de l'époque. Donc il y avait une appartenance forte à un esprit musical à l'époque.
Au tout début des radios libres, donc, c'est comme ça qu'on disait, en 1981.
Hervé, capitaine, animateur, érigé, ex-Radio Nova.
Effectivement, il y a eu un déferlement de musique sans carcan. La programmation était beaucoup plus libre puisque chacun passait en fait ce qu'il avait et ce qu'il aimait surtout. Et ça déclenchait donc des réactions. Et de fait, au départ des radios libres, ça a été vécu pour tous les gens qui, comme moi, n'avaient que trois fréquences, grosso modo, à écouter dans la journée, à savoir France Inter, RTL, et selon là où on était en France, Radio Monte Carlo, en gros, et Europe 1. D'un seul coup, avoir toutes ces fréquences différentes, tous ces contenus, finalement, les gens étaient très curieux et appelait très très facilement les stations. Un morceau qu'on ne connaissait pas, pim, on passait un coup de fil et c'est vrai qu'on avait en règle générale une émission sans avoir une dizaine de coups de fil, c'était très mauvais signe à l'époque. Il y avait une vraie curiosité et de fait un vrai dialogue puisqu'il n'y avait rien de plus facile que de pousser un bouton sur la table et de faire parler l'auditeur à l'antenne.
Tout cela amène les radios à se spécialiser rapidement. Entre radios locales associatives, volontiers militantes, radios strictement musicales, vite rachetées par des réseaux nationaux, et radios commerciales aux dents longues, la bataille fait rage entre les diffuseurs pour occuper le terrain des ondes, chacun avec ses arguments.
Le principe d'une radio privée, c'est... Les auditeurs viennent.
Alain Mayer, ancien directeur de 8FM.
Ils répondent qu'ils nous écoutent quand on les sonde. Et nous, on vend le nombre d'auditeurs à des annonceurs publicitaires qui vont faire tourner la radio, qui vont nous payer. Donc le plus important, ce sont les auditeurs. Si personne nous écoute, on a beau faire la plus belle radio du monde, eh ben, on va dans le mur. Et surtout, c'est savoir qui est son client. Et savoir quel intérêt on va lui accorder, quel effort on va faire dans sa direction, comment on va le bichonner, comment on va lui offrir des cadeaux, comment on va le prendre en bus pour l'amener voir à Paris un concert unique de Michael Jackson au Parc des Princes. Parce que s'ils n'y vont pas avec nous, comme de toute façon tout a été vendu, eh ben ils n'iront pas. Or nous, on leur offre des entrées au Parc des Princes pour quelque chose qui n'existe pas.
Michael Jackson, Jean-Jacques Goldman ou Madonna sont les stars incontestées des ondes dans les années 80, quitte à en saturer les antennes. Les radios locales, et notamment en Aquitaine, ne sont pas en reste pour mettre en avant les talents de leur région avec lesquels elles se sentent en osmose. C'est ce qu'explique notre ami Captain.
Alors, au tout début des radios associatives, en fait, la question de comment aider les nouveaux talents locaux, donc souvent, elle s'est pas vraiment posé, c'était complètement naturel dans la mesure où à la base on allait faire une émission de radio parce qu'on s'intéressait déjà à la musique, qu'on avait un certain nombre de vinyles, mais les groupes du coup quand on était intéressé par la musique, on allait voir des concerts à Bordeaux, dans les caves, dans les bars, etc. Donc au bout d'un moment, nous on était intéressés par les groupes étaient intéressés par les émissions de radio, donc c'était logique qu'on finisse par se rencontrer, même assez vite. Et comme c'était des gens qu'on croisait quasiment tous les jours, c'était assez facile de les inviter au micro. Moi, j'ai eu Noir Désir en studio il y a... Oula, ils n'avaient pas encore sorti leur premier album. Comme beaucoup d'autres groupes de l'époque sont passés dans nos studios avant de devenir, entre guillemets, des stars nationales. Je pense à la Manon Negra, par exemple, pareil, ils sont passés dans nos studios aussi. Mais c'était très logique, c'est parce qu'on était dans un milieu de musiciens, donc il y a ceux qui jouent de la musique, il y a ceux qui font la technique, il y a ceux qui écrivent des fanzines, à l'époque on appelait ça comme ça, maintenant c'est des webzines, puis il y a ceux qui diffusent, et donc c'était très logique qu'on se retrouve à faire des choses ensemble en fait.
Ce souci constant d'aider la scène locale est toujours aussi présent de nos jours. Il est même l'une des lignes directrices d'une radio comme RIG, à Blanquefort, en Gironde.
Moi, je travaille donc sur RIG, qui est une associative basée à Blanquefort, et une partie de mon travail est consacrée à la scène locale. Alors, pour ça, il y a plusieurs axes. Un, on en passe à l'antenne, dans le flux de musique de la journée, et on a aussi des rubriques un peu plus spécialisées, dont une qu'on appelle l'album de la semaine, qui consiste à décortiquer un maxi ou un album. Il nous faut 5 titres, en fait, un par jour du lundi au vendredi, qu'on présente en identifiant l'artiste. C'est-à-dire, si c'est un gars de Périgueux, un petit rappeur comme celui qu'on a cette semaine, Laurias, je vais le dire plusieurs fois, de façon à être sûr que l'auditeur ait bien, un, perçu la chanson, et deux, qu'il sache de qui il s'agit. Et je lui donne systématiquement les liens qui vont lui permettre d'en savoir plus. On a aussi un programme qui, lui, est plus régional, qui se fait en collaboration avec Bob FM, qui est une associative de Limoges, et Radio Pulsar, qui est une autre associative de Poitiers, où chacun de notre côté, on essaye de repérer les groupes émergents. On va interviewer donc les artistes, même si on n'entend pas nos questions. Faire un petit montage d'une dizaine de minutes, avec soit un morceau, soit des extraits montés, qui permettent aux auditeurs donc d'avoir la version de l'artiste, de son travail, et aussi d'écouter ce qu'il fait. Ces modules, on les échange entre les radios, donc moi je passe des groupes de Poitiers, je passe des groupes de Limoges, eux passent des groupes de Bordeaux, et on les multidiffuse sur une semaine, de façon à être sûr que nos auditeurs, quelles que soient leurs habitudes d'écoute, aient une chance de tomber dessus. Et ça, ça s'appelle le Top 40.
Et même les plus grandes vedettes s'invitent à l'antenne, par exemple sur ARL à Langon, pour parler de l'useste musical de Bernard Lubat.
Moi j'ai connu Bernard Lubat, il avait 18 ans, il débarquait de ses prix de conservatoire, il commençait à tourner autour de Kenny Clarke. Il a fait donc une carrière également dans la musique contemporaine dite classique. Enfin, il n'a plus rien à prouver en ce qui concerne ses qualités de musicien. C'est un artiste. Un artiste est dans un éventail de dons et d'expressions véritablement assez exceptionnel. C'est également un poète. Et c'est également, et surtout, qu'ils rassemblent tous, un homme qui aime sa patrie, qui aime son ethnie et qui veut fonder, n'est-ce pas, une renaissance. C'est un homme de renaissance.
Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde.
S'il te plaît, CTA, dessine-moi une radio.
Depuis 1981, la radio chante, sur tous les tons, dans toutes les langues, sur tous les rythmes, dans tous les styles. Et puis un jour, elle va se mettre à parler, et à parler de plus en plus. Ce n'est pas nouveau, bien sûr, on se souvient de Ménie Grégoire, Gonzague Saint-Brie, Wayne Gaillard, et on a toujours beaucoup parlé sur France Culture. En 1987, Radio France invente France Info. La radio d'information continue qui parle toute la journée. Une porte est ouverte, les radios vont être nombreuses à la franchir dans notre région. Jean-François Brieux.
D'abord, il y a un événement assez intéressant à Bordeaux, qui est que dans les mêmes années, Sud-Ouest se positionne. Sud-Ouest voit venir le truc, réussit à se ménager le créneau 100, puisque la radio va s'appeler Radio 100. Elle, elle a derrière elle quand même un background un peu costaud qui lui permet d'avoir une équipe d'abord, ce qui n'est pas le cas des autres, une équipe rémunérée. Il y a un directeur d'antenne qui le rejoint, qui vient de RTL. Et donc là, évidemment, c'est autre chose, parce qu'ils ont du matériel pour sortir et pour faire du reportage, et un studio opérationnel avec un technicien de l'autre côté de la vitre pour accueillir des gens. Et donc la parole c'est plus compliqué quand même déjà. Il faut écrire des textes, il faut structurer des émissions. On balance pas simplement du disque en disant bonjour, il est 8h, il fait beau, on va écouter machin, on va écouter truc. Il faut structurer des émissions. Et je crois que la présence de Radio 100 à Bordeaux va pas mal inciter les radios à s'organiser. Sinon, pour les radios moins performante du point de vue du matériel, pas du point de vue des idées, hein, je ne me permettrai pas de dire ça. Il y a beaucoup de forums un peu à l'emporte-pièce, on réunit les copains et puis on prend un sujet, je ne sais pas quoi, les sujets de l'époque, de ces années-là, la peine de mort par exemple, c'est pas mal de bruit. Je me souviens de débats à n'en plus finir sur comment faire échec au nucléaire, qui était aussi un des gros sujets de l'époque. Comment faire barrage ceci, bon, enfin voilà. Et puis on peut revenir aussi à la chanson par ce biais-là, c'est que ces radios qui veulent des marqueurs, qui veulent des marqueurs culturels, vont inviter aussi des artistes, puisque maintenant ils ont des studios, ça aussi c'est de la parole quand même. Et on va voir défiler derrière les micros des chorégraphes, des chanteurs, des metteurs en scène de théâtre, des écrivains, qui vont aussi donner à ces radios une couleur particulière. Ce sont ces radios libres, entre guillemets, qui d'une certaine manière ont commencé à lancer le coup de la parole sans fondement, d'une certaine manière. La parole commandée par les tripes, quoi. Curieusement. Mais ça s'explique aussi par le fait que jusqu'à 81-82, la parole était confisquée. La parole officielle, la parole médiatique était totalement confisquée.
La parole n'est plus confisquée, elle se libère partout sur les ondes. Les émissions traitent de tous les sujets, la sexualité, la politique, le racisme, la justice, les sans-papiers, la police. Rien n'échappe au débat, à la parole donnée à ceux qui n'y ont pas forcément accès. Certaines radios, ouvertement militantes, développent le projet éditorial d'ouvrir leur antenne aux exclus de la parole. À Bordeaux, la Clé des ondes, présente depuis 40 ans sur la bande FM, en est un très bon exemple.
L'idée, c'est d'amener d'autres voix à entendre, une diversité aussi des échanges, plus ou moins radicaux pour, quand il est question de politique.
Xavier Ridon, directeur de la Clé des ondes.
Cette couleur d'antenne, elle vient aussi, par exemple, de parties de la population d'origine étrangère étrangère et qui peuvent là parler de leur culture, qui peuvent parler de leur actualité. Et je pense notamment, bien entendu, à la communauté maghrébine via l'émission Trade Union, à l'émission aux camarades portugais qui viennent là également les week-ends, espagnols, latino-américains. Il y a d'autres émissions. Alors il y a émissions, mais par exemple aussi les chômeurs, faites par les chômeurs et les précaires. Il n'y a pas beaucoup quand même d'émissions sur les radios qui sont faites par les chômeurs et les précaires. Et ben, elle est là depuis des années. Il y a d'autres émissions où là c'est un peu plus compliqué de tenir. Par exemple l'émission Prison, à destination des détenus et des familles. Les familles peuvent faire passer des messages aux détenus en appelant et en envoyant un petit message de sympathie, une pensée ou en dédicaçant une chanson. Cette émission peut avoir des trous quelquefois parce que les collectifs qui la tiennent, et ben c'est assez dur hein, quand même. Ce sont des émissions qui peuvent être assez dures et il faut réussir à tenir dans le temps, ce qui n'est pas toujours simple.
La parole s'exprime aussi par le débat. Au tournant des années 2000, une station comme RMC en devient même l'emblème, en supprimant purement et simplement la musique de son antenne pour la consacrer exclusivement à la parole via des débats réunissant polémistes et interventions d'auditeurs estampillés grande gueule. Le débat devient de moins en moins audible, de plus en plus anarchique. Certaines émissions peuvent tourner à la foire d'empoigne, quand chacun parle sans écouter l'autre. Pour l'auditeur, c'est assez pénible, mais pour certains de ces médias, l'objectif est atteint, au point de donner naissance à une expression nouvelle, faire le buzz. Jean-François Brieux.
Il y a effectivement ces talk-shows débridés qui nous viennent en Europe, beaucoup d'Italie, aussi des États-Unis comme toujours, et qui sont, le format classique, c'est on prend les 6 thèmes qui font le plus de buzz dans l'actualité, on réunit 4 journalistes, si possible au moins 2 grandes gueules au minimum, et 2 un peu plus intello au maximum, parce qu'il faut quand même faut que ça s'agite, et puis on balance, alors je sais pas quoi, aujourd'hui, si on prenait l'exemple d'aujourd'hui, qui sera historique dans 10 ans, mais aujourd'hui c'est le vaccin, quelle horreur, ou le vaccin, quelle merveille, enfin bon, voilà. Et je crois qu'effectivement ça répond sans doute à une attente des gens, puisque c'est très écouté, en termes d'audience c'est très écouté. Et puis surtout ce qui est fascinant, c'est de voir tous ces gens s'empailler de manière définitive sur des dossiers dont on sait très bien que matériellement, aucun d'entre eux n'a vu une page réelle du dossier, que ce soit un dossier pénal, médical, scientifique et même politique. Donc c'est ça moi qui me fascine le plus, c'est tous ces gens qui peuvent sur une heure être spécialistes à fond la caisse de la Birmanie, deux minutes après de la façon dont on conserve un vaccin, cinq minutes plus tard, je sais pas quoi, de l'extrême droite à Atlanta. Qui montre bien, si on réfléchit, si on se pose deux minutes, que c'est de la foutaise, pardon pour l'expression. Mais ça fait du buzz, il n'y a pas que des âneries qui sont dites non plus. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une seule radio qui, d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins sérieuse, n'est pas son talk show.
Il serait temps que tu te réveilles, toi, c'est bien.
Parce que t'as plus 4 ans. C'est pas parce que t'es venu à l'appartement, t'es moulin, de Marine Le Pen.
Ça, tu me l'as dit avant d'entrer dans le studio, donc c'était préparé
tout ça.
On est d'accord, ça fait vraiment du bien aux oreilles quand ça s'arrête. C'est sans doute parce que la plupart des pseudo-débatteurs d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment lu Montaigne.
Je me sens plus fière de la victoire que je remporte sur moi-même quand je change d'avis que de la victoire que je remporte sur l'autre quand je le persuade.
Cela dit, il existe heureusement nombre de radios pour qui la libre parole ne se résume pas à une bouillie cacophonique et indigeste. En Aquitaine, beaucoup de radios associatives ouvrent leurs antennes pour laisser s'exprimer calmement et d'une manière quasi didactique ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, une expérience à partager, une action à faire connaître. Petit florilège pris au hasard sur Radio Libre en Périgord, Souvenir FM ou encore La Clé des Ondes.
Bonjour, je suis ici à l'épicerie de Coulommiers-Chamiers avec son patron, donc qui s'appelle
Saïd.
Vous avez ouvert il y a combien de temps?
Il y a 5 ans.
Et aujourd'hui, vous êtes un lieu de vie pour tous les jeunes du quartier, pour la population du quartier. Comment c'est venu?
Avec le temps, en fait, il n'y a rien dans le quartier. Hein. C'est le seul coin où ils se trouvent, où ils sont ensemble. Où... C'est le seul endroit, en fait, sur Coulommiers-Chamiers. Sinon, il n'y a rien d'autre pour les jeunes. Il n'y a rien pour où ils se trouvent, en fait. Il n'y a rien, à part c'est l'épicerie, en fait.
J'ai relayé, j'ai commencé à relayer à Dax, ce mouvement des coquelicots, qui est donc un mouvement citoyen qui a été lancé dans toute la France en septembre 2018. Et donc ce mouvement citoyen a pour objectif d'exiger l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Donc on relaye à Dax, mais c'est bien sûr relayé dans toute la France. Environ aujourd'hui 800 groupes en France qui relayent l'appel des coquelicots. Donc autour de deux choses, il y a donc l'appel des coquelicots qu'on va lire dans quelques instants,
ouais,
et des rassemblements tous les premiers vendredis du mois devant toutes les mairies de France.
Vous allez voir que vous allez passer un excellent moment en compagnie de la musique portugaise. Nous sommes là jusqu'à 12h, donc quittez pas les ondes de Radio Libre en Périgord.
Mais Jean-Baptiste Clément, ce n'est pas simplement le temps des cerises. Il a aussi composé une chanson que, je ne sais pas si on la chante encore, c'est « Dansons la capucine, il n'y a pas de pain chez nous, il y en a chez la voisine ». Mais ce n'est pas pour nous. C'est une comptine qui a fait le tour du monde aussi. Mais il a écrit une autre chanson, on la passera plus tard, « La semaine sanglante » en 1871, « La grève » en 1893, « En avant paysan » en 1900. Et il a fait cette carrière à la fois de chansonnier, mais aussi d'homme politique engagé, puisque il était député à la fin du 19e siècle. Et il va mourir en 1903. Il sera accompagné par plusieurs milliers de personnes au Père Lachaise. Et si vous avez l'occasion de passer au mur des Fédérés, vous verrez il y a une statue avec son buste en hommage au communard Jean-Baptiste Clément.
J'écoute la radio. Et vous ?
Du temps des cerises au temps de la Covid, 150 ans se sont écoulés. Et aujourd'hui, pour s'exprimer librement, il n'y a pas que la radio. Les réseaux sociaux sont devenus pour beaucoup un passage obligé. Il y a 10 ans tout juste, on découvrait Twitter et Facebook. La nouveauté était tellement intrigante que Radio France et les radios francophones publiques, pour mieux l'appréhender, s'étaient lancés dans une expérience inédite. Enfermer 5 journalistes pendant 5 jours dans un gîte rural du Périgord, sans radio, sans télé, sans autre accès à Internet que 2 comptes Twitter et Facebook pour s'informer de la marche du monde. L'opération s'appelait « Huit clos sur le net ». L'un des participants se souvient.
L'enseignement qu'on a tiré, en tout cas moi, pour ma part...
Noureddine Zidane, rédacteur en chef en charge de l'éducation aux médias de France Bleu et Move.
C'était que, oui, il était tout à fait possible de s'informer très bien avec ses réseaux sociaux, mais tout dépendait déjà de la qualité de son réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un bon maillage d'abonnements, on pouvait très bien être informé en la matière. L'autre enseignement, c'était que la mise en perspective était assez compliquée. C'est vrai que lorsqu'on a tout ce flot d'informations, c'est difficile de hiérarchiser, qui est un peu le rôle du journaliste. Et cette question de savoir mettre en perspective un flot d'informations, elle se pose encore aujourd'hui. Nous, en tant que journalistes, à l'époque, on avait du mal. Alors, rendez-vous compte aujourd'hui, pour des gens qui n'ont pas les codes, ce recul critique, ces réflexes par rapport au traitement de l'information, imaginez comment c'est difficile aujourd'hui.
C'était en 2011, et cela nous semble pourtant très loin. Depuis, les réseaux sociaux sont omniprésents dans l'expression des idées et surtout des réactions, au point, d'après certains éditeurs, de constituer une menace directe pour le média radio.
Alors les réseaux sociaux sont aujourd'hui effectivement pour les radios comme nous une concurrence au quotidien.
Pascal Darmandieu, directeur de Demoiselle FM.
C'est-à-dire qu'avant, une radio de proximité traitait de l'actualité locale, départementale. Le soir, le travail qui avait été fait par les journalistes dans la journée était donné le soir dans les différentes rédactions et dans les journaux de la rédaction. Aujourd'hui, au quotidien, toute la journée, vous avez sur les réseaux sociaux les informations qui tombent. Ce que nos journalistes récupèrent à 11h le matin en conférence de presse, à midi, vous l'avez mis sur les réseaux sociaux par un journal ou par autre chose. Donc on n'a plus cet effet d'être les premiers. Avant, on était les premiers. La radio était en premier. Le lendemain, vous aviez la presse. Après, vous aviez la télévision. Aujourd'hui, tout est chamboulé. Donc les gens ont les informations comme ça qui tombent un peu n'importe quel moment, n'importe où. Voilà. Donc je trouve que pour moi, les réseaux sociaux c'est bien, mais pour les radios comme nous, c'est quand même un danger pour l'avenir de nos rédactions qui travaillent au quotidien. Je parle pour l'information, voilà, surtout, hein, donc dans ce cas-là. Après, c'est vrai que ça permet de faire découvrir la radio à droite et à gauche par le biais de ces réseaux. Ça a toujours ce côté-là, mais dans l'information de pays comme nous on la traite, pour nous c'est véritablement le danger. Ouais.
C'est un point de vue. Pourtant, d'autres professionnels veulent encore croire que la radio n'a pas perdu la guerre face aux réseaux sociaux. Alain Maillère, puis Noureddine Zidane.
Moi, je pense que tant qu'on aura la radio dans les voitures, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment une utilisation très automobile, et on n'aura pas de danger. Mais quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux, pour moi, s'autodétruiront un jour par l'absence de contrôle, parce que les bornes seront franchies et la liberté de parole à la radio s'accompagne de quelque chose qui n'existe pas sur les réseaux sociaux. Et si les réseaux sociaux ne s'en dotent pas, ils auront des problèmes. C'est le rôle du médiateur. Si on peut pas identifier qui envoie quel message, contrairement à la radio où on rappelle d'ailleurs pendant toutes ces années sur 8, on ne laissait jamais passer quelqu'un à l'antenne directement. J'appelle le standard, je passe à l'antenne. Il laissait son numéro de téléphone, on le rappelait, et tout d'un coup, on avait cette sécurité-là de savoir qui nous avait joint et à qui on donnait la parole.
C'est encore plus important en ce moment. Pourquoi ? Parce que avec le confinement, il y a un vrai besoin de lien social, de parole, et presque aussi de trouver une humanité que l'on ne retrouve plus sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure, on a vu que cette proximité a fait que peut-être que le respect est tombé, que l'insulte a été beaucoup plus facile parce qu'on est derrière son écran et qu'on ne s'écoute plus. On parle, on crie parfois, mais on ne s'écoute plus avec parfois même des campagnes de harcèlement qui sont extrêmement néfastes. Et il manque ce côté humain que la radio a encore. Et c'est, je pense, l'un des atouts de la radio, c'est qu'il y a des personnes, des gens qui ont des émotions, qui peuvent, comme c'est le cas dans des battles, faire parler deux personnes avec des avis différents et sans forcément les faire rejoindre, mais en tout cas faire s'écouter. Donc voilà, ça c'est la grande force de la radio et qui, j'espère, va rester et qui n'est pas encore remplacée par l'intelligence artificielle.
Ils n'ont peut-être pas tort, car la radio sait encore séduire les plus jeunes, ceux qui constitueront les forces vives des auditeurs de demain. Certes, ils ne sont pas toujours nombreux, mais en cherchant bien, on a réussi à trouver Zélie, 13 ans, collégienne en Gironde.
Les réseaux sociaux, j'en ai un, mais avec toutes les mises en garde des parents, toutes les informations qui circulent sur du cyberharcèlement, des suicides à cause des réseaux sociaux, ça me fait un peu peur. C'est pas forcément les applications que j'aime le plus. Je sais pas vraiment, c'est vraiment pas les réseaux sociaux, c'est juste un passe-temps. Je préfère encore lire des livres qu'aller sur mon téléphone, les réseaux sociaux, les trucs, les machins.
Et l'information, tu vas la chercher sur les réseaux sociaux ?
Non, je vais plus sur... je vais peut-être soit attendre à la radio qui parle de cette information, soit voir à la télé. Et j'aime bien parce qu'après aussi, ça donne des sujets de conversation, ça permet de débattre, d'apprendre plus. C'est pas la radio, c'est bien quand... C'est pas forcément un truc de vieux, c'est pas un truc de jeune, c'est un truc pour tout le monde, et puis voilà.
Merci Zélie pour ce message d'espoir qui signifie également que le lien entre l'auditeur et sa radio n'est pas prêt de se couper. La force de ce lien, c'est justement ce que nous approfondirons dans le prochain volet de notre série « Radio, raconte-moi ton histoire ».
C'était Radio Raconte-moi ton histoire, une série historique et futuriste proposée par le CTA de Bordeaux. Cet épisode a été préparé par Françoise Dost et Jean-Pierre Gauffre, avec la complicité technique de Victor Michet et Karl Saouma, à la réalisation Marc Rigaud, et la contribution de nos radios locales sans lesquelles rien n'aurait été possible.